SBS Radio.
Les grands titres de ce samedi 13 juillet. Le premier ministre australien Scott Morrison a annoncé qu'il se rendra en visite officielle aux États-Unis en septembre. En Nouvelle-Zélande, c'est la première journée du programme d'amnistie concernant les armes à feu après les nouvelles lois annoncées en avril. Et à Wimbledon, Roger Federer a défait Rafael Nadal pour aller rejoindre Novak Djokovic en finale. Le premier ministre australien Scott Morrison se rendra en visite officielle aux États-Unis en septembre. Le président américain Donald Trump le recevra lors d'un dîner officiel à la Maison-Blanche. C'est la première fois qu'un premier ministre australien est invité à un événement du genre depuis John Howard en 2006, durant la présidence de George W. Bush. L'annonce a été faite après que Morrison se soit adressé aux troupes américaines qui font partie de l'exercice Talisman Sabre au Queensland, avec des troupes de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, du Canada et du Japon. Une autre visite, cette fois celle du président turc Recep Tayyip Erdogan, en Australie l'an prochain. Cette visite historique pourrait coïncider avec les commémorations d'Anzac Day à Canberra. Dans une interview exclusive avec SBS News, l'ambassadeur turc en Australie, Koran Karukok, a dit que les tensions entre les deux pays étaient en train de s'apaiser. On se souvient que Scott Morrison avait critiqué Erdogan après ses commentaires sur l'attaque terroriste contre la mosquée de Christchurch. L'ambassadeur confirme que certains sujets restent sensibles, comme la décision de l'Australie de retirer la citoyenneté à Anil Prakash, terroriste du groupe État islamique.
It's a problematic issue that I agree, but on the Anil Prakash case, I'm still optimistic for the Australian government to accept him back.
L'ambassadeur turc en Australie, Koran Karukok. Le Royaume-Uni va envoyer un second navire de guerre dans le Golfe Persique alors que les tensions avec l'Iran montent. Le gouvernement britannique affirme que des bateaux iraniens ont tenté d'entraver l'un de leurs pétroliers dans le Golfe Persique plus tôt cette semaine. Le destroyer HMS Duncan sera déployé dans le Golfe la semaine prochaine, prenant la place du HMS Montrose, qui quittera pour des opérations d'entretien. Du côté de l'Iran, on demande toujours au Royaume-Uni de relâcher l'un de leurs pétroliers qui est retenu à Gibraltar. En Nouvelle-Zélande, aujourd'hui marque la première journée du programme d'amnistie concernant certaines armes à feu. Des lois sur le contrôle des armes à feu ont été introduites après l'attaque terroriste sur la mosquée de Christchurch en mars dernier. L'amnistie permet aux autorités de faire la collection des armes interdites sans que les citoyens soient pénalisés. Le ministre de la police du pays, Stuart Nash, demande aux citoyens de respecter les nouvelles lois.
We urge people before they come in to go online, fill in the form, come prepared, and it'll be a nice, easy, streamlined process. This will play a huge part in getting these banned weapons out of our communities and, I believe, making our communities much safer.
Après l'amnistie, les citoyens qui gardent leurs armes pourraient faire face jusqu'à 5 ans de prison. Le programme a lieu jusqu'en décembre. Aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé qu'une vague d'arrestations contre les migrants menacés d'expulsion commencera ce week-end. Son plan a pour but de décourager la hausse de migrants venus d'Amérique centrale. L'opération, qui aura lieu dans 10 villes, devrait viser les familles qui ont récemment reçu un ordre d'expulsion, mais qui n'ont pas encore quitté le pays. Trump a dit ne pas être inquiet que l'annonce pousse les migrants à fuir et se cacher.
Nothing to be secret about. If the word gets out, it gets out, because hundreds of people know about it. It's a major operation. So if the word gets out, it gets out. It starts on Sunday, and they're going to take people out, and they're going to bring them back to their countries, or they're going to take criminals out, put them in prison, or put them in prison in the countries they came from.
Le président américain Donald Trump. Après 2 ans de discussion, le Fonds monétaire international a annoncé qu'il allait accorder près de 450 millions de dollars sur 3 ans au Congo-Brazzaville pour relancer l'économie du pays. Le FMI a toutefois imposé des conditions, encourageant le pays à plus de transparence de ses comptes publics. Les détails avec Olivier Roger.
Les réactions congolaises relèvent davantage du soulagement que du triomphalisme. Comme le confie sous couvert d'anonymat un ministre, on est un peu comme un surendetté qui voit son dossier accepté par la banque. On respire enfin, mais on serre toujours les dents. Même tonalité chez Clément Mouamba, le Premier ministre interrogé à la radio nationale congolaise.
Il reste maintenant le plus dur à faire, c'est de travailler dur pour que nous respections toutes les prescriptions de cet accord. Donc pour le moment, manifestons notre joie. Et le plus dur, c'est de donner notre cadence dans la manière de gérer nos affaires publiques.
La prudence est donc de mise et les autorités devront rendre compte chaque semestre au FMI de l'utilisation des fonds débloqués et de l'état d'avancement des réformes promises. Cependant, la société civile congolaise met en garde le FMI. Les exigences transmises en mai dernier par l'institution n'ont pas été entièrement satisfaites, affirme Brice Makosso, le coordinateur de Publier ce que vous payez. Pour lui, le FMI doit maintenir la pression.
Nous espérons que le FMI tiendra bon. Nous nous demandons au FMI d'être exigeant avec les autorités congolaises. Les Congolais, ils ont besoin de comprendre comment nous sommes arrivés à une si lourde dette.
Publier ce que vous payez réclame aussi la transparence sur la dette chinoise et les contrats d'équipement passés après 2014 qui ont fait véritablement exploser la dette. L'ONG demande enfin une loi pour interdire les prêts gagés de pétrole. C'est cette pratique de prêts gagés qui a provoqué la crise des finances publiques après 2014.
Olivier Roger pour RFI. Et un mot de sport pour terminer le journal. D'abord du tennis à Wimbledon, Roger Federer a défait Rafael Nadal, lui permettant ainsi de passer à sa 12e finale du tournoi. Le pointage final est de 7-6, 1-6, 6-3 et 6-4. Il s'est dit heureux d'avoir défait son éternel rival.
I think that first set was huge as well. Get the lead and then sort of try to protect it, but he came back very strong in that second set and I don't know. I just thought it was a joy to play today.
Federer retrouvera Novak Djokovic en finale demain dimanche. Et du côté du Tour de France, le Néerlandais Dylan Groenewegen a remporté la 7e étape, la plus longue du Tour. Il est arrivé devant l'Australien Caleb Ewan et le Slovaque Peter Sagan. La journée a été marquée par une échappée au long cours de deux Français. Christophe Deremziam nous en dit plus.
Longue par la distance, cette étape aura été sauvée de l'ennui total par deux camarades d'entraînement persévérants. Déjà partis à l'aventure sur la route d'Épernay lundi, Stéphane Rossetto et Johan Ofredo ont repris une chevauchée fantastique de 218 km, une énième fois condamnée par les chasseurs de fuyards, mais Ofredo, élu combatif du jour, a vraiment cru à l'exploit.
J'avais vu ce rêve-là de me dire qu'on allait nous laisser 30 minutes et que voilà, on allait gagner comme ça. Et du coup, je raconte mon rêve ce matin dans le bus à Frédéric Bacquart. Il me dit imagine, t'y vas pas et puis il y a vraiment quelqu'un qui arrive avec 30 minutes d'avance. Tu vois, et c'est pas toi. Tu vois. Du coup, ça m'a trotté dans la tête pendant les 9 km de fictif et je me suis dit, ouais, si ça m'arrive, je suis dégoûté. Et du coup, je suis allé devant.
Wanty Gobert, l'équipe de Johan Ofredo, est décidément de tous les bons coups depuis le début du tour. Steven Denif, l'un des directeurs sportifs de la formation belge, plus petit but de plateau, se réjouit de voir ses coureurs montrer le maillot.
Oui, et pas seulement dans des attaques aussi pour la première place avec Maurice. Donc je pense qu'on est en train de faire un bon tour. Quand tu as un wild card, ok, tu dois te prouver un peu plus que les World Tour, je pense. Et je pense qu'on est en train de faire ça, oui.
Toujours en quête d'une première victoire sur la grande boucle, Wanty Gobert espère une meilleure fortune lors des prochaines étapes dessinées pour ses baroudeurs, prévues la semaine prochaine.
C'était Christophe Deremziam de RFI en direct du Tour de France. Je tends maintenant un coup d'œil à la météo avant de passer à la suggestion cinéma de Laurent Auclair. À Perth aujourd'hui, un maximum de 19 degrés, Adélaïde 13, Melbourne 11, Hobart 9, Canberra 8 degrés, Wollongong 14, Sydney 15, Newcastle 16, Brisbane 24, Cairns 27 et à Darwin 32 degrés. Un rappel des grands titres de ce samedi 13 juillet. Le premier ministre australien Scott Morrison a annoncé qu'il se rendra en visite officielle aux États-Unis en septembre. En Nouvelle-Zélande, c'est la première journée du programme d'amnistie concernant les armes à feu après les nouvelles lois annoncées en avril dernier. Et à Wimbledon, Roger Federer a défait Rafael Nadal pour aller rejoindre Novak Djokovic en finale.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.